dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les délires de la création. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Jules voit entrer un jeune homme qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Marie. Mais parce qu'il est un homme, cela le rend encore plus beau. Il ressemble à Marie, mais n'a rien d'efféminé. C'est un beau jeune homme, blond, cendré. Jules est ébloui par lui. Le jeune homme s'avance vers eux. Jules se lève. La mère dit au jeune homme :
Alexandre, je te présente Monsieur Jules Beaumandin. Ce jeune homme a aidé ta sœur à porter des paquets. Alors j'ai invité à prendre le thé.
Ils se salient tous deux et le jeune homme va s'asseoir à côté de sa sœur. Jules les regarde tous deux et se dit qu'on peut pas aimer l'un sans aimer l'autre. Ce sont deux copies conformes. Je le demande, vous jouez au tennis? Marie lui répond, oui un peu, mais nous ne sommes pas très forts. Je lui dis, moi non plus, mais c'est un jeu amusant. Et mon père a aménagé dans un coin du parc un terrain. Je joue avec mon frère et ma sœur. Mais avec vous, ce sera plus intéressant.
Nous pourrions faire deux équipes de deux. Marie ne semble pas emballée. La mère lui dit, pourquoi pas? Cela vous permettra de vous distraire avec de nouveaux amis. Marie dit à Jules, bon, d'accord. Jules lui dit, merci mademoiselle, cela me fait énormément plaisir. Il regarde les descendants et lui demande, et vous monsieur, puisque ma soeur y va, je viendrai. Jules est heureux, il a récupéré les perles de la couronne. Il leur dit, alors jeudi prochain, 14h chez moi. Il sort sa carte et la donne à la jeune fille qui lui dit, nous y serons. Jules est heureux, il regarde sa montre et dit, malheureusement je vais être obligé de vous quitter. Il se lève, les autres aussi. La mère lui dit, nous sommes heureux d'avoir fait votre connaissance, monsieur. Moi aussi, madame. Et tous leur accompagnent jusqu'à la sortie. Sur le chemin qui le ramène chez ses parents, il est heureux. Quel genre charmant. Et puis la jeune fille est délicieuse. Ce serait bien pour moi. Peut-être une chance que le destin me donne et que je dois la prendre. Une nouvelle vie va commencer. J'aurai une femme, une belle femme, gentille et douce. Mon Dieu. Malheureusement, malgré lui, il ne peut s'empêcher de voir juxtaposer le frère et la sœur. Malgré lui aussi, il ne peut les différencier. Mais sûrement que dans la nudité, il préférerait le corps du garçon mince et lisse à celui de la fille avec ses gentilles rondeurs de jeune fille. Mais de cela, il veut passer outre. De toute façon, la fille ressemble au frère, de visage, de cheveux, de peau. Lorsqu'il l'embrassera, il embrassera le frère. Lorsqu'il lui fera l'amour, il oubliera et croira que ce sera avec l'autre. Mais ne s'en rendra pas compte, car il le fera avec fougue, en croyant avoir le frère. Arrivé chez ses parents, il va dire à sa mère qu'il a invité le frère et la sœur. Il retrouve sa mère assise au salon.
Tu fais entrer chez nous des gens que nous ne connaissons pas.
Pour une fois que j'invite une personne, je ne l'ai jamais fait. Et puis ce sont des gens très bien. Le père est professeur. Le fils fait des études de droit. Et ils sont très bien logés. Et puis, je ne les ai invités que pour une partie de tennis.
Très bien, tu t'arrangeras avec ton père.
Jules a prévenu son frère et sa sœur, et leur a dit de faire bonne mine. Le jeudi arrive. Le terrain de tennis a été nettoyé. La mère a fait apporter sur un tréteau des rafraîchissements et quelques amuse-gueules et en plus des serviettes pour s'éponger. Jules et Apolline, Charles-André sont prêts. On a sonné au portail. C'est eux, tout habillés de blanc. Ils arrivent vers la maison. On les fait entrer au salon où Jules leur présente ses parents, son frère et sa sœur. Jules les trouve très beaux. Il se dit qu'on dirait des anges. Sa sœur et surprise, ils ne savaient pas que c'était deux jumeaux. Et ils vont jouer. trampoline avec Alexandre. J'attendrai qu'il ne sait pas jouer contre les points. Il joue agréablement et gentiment. Après 2 heures de jeu, ils se sont rafraîchis. Jules est aux petits soins pour Marie. Il la serre, lui donne une serviette pour qu'elle s'éponge. Tout en faisant cela, il jette un coup d'œil au frère. Il trouve qu'il a un corps parfait. Après avoir parlé de choses et d'autres, ils sont partis à 19h en promettant de revenir. Apolline a vu que Marie disait cela sans entrain. Une fois qu'ils sont partis, Apolline et Jules sont assis au salon, l'un en face de l'autre. Je lui demande « Comment la trouves-tu ? » Apolline lui dit « Ce sont de beaux jumeaux, mais je crains pour toi. Ne risques-tu pas de vouloir l'une pour avoir l'autre ? » Qu'est-ce que tu dis là ? Elle lui dit : Je le sais. Je ne le veux pas voir. Il veut et a décidé que sa femme, puisqu'il le faut, serait Marie et personne d'autre. Je forcerai à l'aimer. Ce sera pas difficile vu sa beauté. Ils se voient souvent pour jouer au tennis, aller au café ou à un concert. Jules les voit la plupart du temps seuls. Il fait en sorte de ne pas trop regarder le frère et surtout de s'occuper de la jeune fille. L'après-midi, il est venu chercher Marie chez elle et il a fait la connaissance du père, un grand homme mince, ses cheveux châtains, l'air aimable. Le père lui a demandé ce qu'il faisait. Jules lui a dit que pendant ses temps de loisirs, il écrivait et que certains de ses écrits avaient été édités. Le temps passe. Jules est de plus en plus excité et se voit marié avec Marie. Elle s'en clame. Un jour, Jules, en la raccompagnant, il s'enhardit à lui prendre la main. Elle ne réagit pas. Lui est rouge d'émotion. À l'après-midi, sa mère au salon lui dit : Tu fréquentes un peu trop cette jeune fille. Tu vas finir par la contremettre. Tu es à un âge où tu dois comprendre cela. Il s'agit de savoir ce que tu veux faire. Que comptes-tu faire de cette petite ? Jules est en âge et ému. Il voit que c'est le temps des décisions. Il lui répond : Mère, je crois, j'aime cette jeune fille et veux l'épouser. Très bien, mon fils. C'est une personne charmante et issue d'une famille honorable. Si tu veux l'épouser, fais ta demande. Et parlez-en bien, mère. Il a rendez-vous avec Marie le lendemain pour aller à un concert. Bien sûr, le frère y sera. Malgré le frère, il est décidé de lui parler. Tout ému, il va chercher le frère et la sœur le soir chez eux. Et ils partent. Durant le concert, où il est assis entre eux deux, il regarde Marie. Et... ou à port. Mais sa beauté l'éblouit. Et lui donne confiance à ce qu'il a décidé. Après le concert, une fois dehors, il prend son courage à deux mains et lui dit « Marie, j'aimerais vous parler. Je vous écoute, Jules. C'est-à-dire que c'est un peu... j'aimerais vous parler seul. » Elle lui dit « Bien. Hey, Sandre, ne t'ennuie pas de nous laisser Jules à me parler. Rentre, Jules me raccompagnera. » Jules lui dit « Je suis confus. » Alexandre lui dit « Ce n'est rien, c'est normal. » Et il s'éloigne. Marie lui dit « Je vous écoute, Jules. » « Bien voilà. Ce n'est pas facile, mais il le faut. Je veux vous dire, c'est que... Marie, je vous aime. Et veux vous épouser. » Et lui demande « C'est une demande en mariage ?»« Oui. » Elle lui dit « Je vous remercie et suis très flatté, mais je sais quoi répondre à votre demande. J'aimerais que vous attendiez un peu. Après, je vous donnerai ma réponse. » Il est déçu et lui dit « Comme vous voudrez, Marie, j'attendrai. » Elle lui dit « Vous comprenez, pour moi, je ne sais pas si je ressens quelque chose pour vous. Je vous trouve gentil. Voilà tout. Je comprends. Je vais vous raccompagner jusqu'à chez vous. » Et il la raccompagne. Il est déçu. Déçu. Il se dit qu'elle ne l'aime pas. Je ne suis pas assez bien pour elle. Pas assez beau. Je fais trop sérieux. Je vois très bien. Elle aime vivre. Je ne suis pas le compagnon idéal qu'elle aimerait. Arrivé devant son immeuble, il lui dit « Je comprends. Je fais vieux, moche, pas drôle du tout. Et je vous promets que je changerai. » Il lui dit « C'est pas cela. Et puis, je n'aimerais pas avoir un mari frivole. Je le veux sérieux. Je n'ai pas l'habitude des hommes, vous comprenez, à part mon frère. Je suis bien qu'avec lui. C'est normal. C'est mon miroir. » Il lui dit « Je vous comprends. Lorsque l'on a un frère comme lui, on trouve les autres hommes sans intérêt. Il a votre beauté et votre gentillesse. Moi, je ne suis pas comme vous. Je ne peux pas lui ressembler. » Il lui dit « Mais ne désespérez pas. J'ai pas donné ma réponse. Et puis, on ne peut pas toujours vivre avec son frère. » Il l'embrasse sous la joue. « Merci pour votre demande. Cela m'a touché beaucoup. Vous aurez une réponse bientôt. » Et elle entre dans son immeuble. Jules s'en retourne troublé et triste. Les jours passent, il attend la réponse. Il est inquiet, il se demande ce qu'il fera si elle le refuse. Je pourrais en aimer une autre. Et un jour, il reçoit une lettre de Marie qui lui donne rendez-vous au parc pour parler un peu. Il lui écrit qu'il accepte son rendez-vous. Et deux jours plus tard, il y va inquiet. Il va donner rendez-vous devant l'entrée principale. jolie robe bleu pâle. Je la trouvais belle. Je vais vers elle. Elle lui sourit. Bonjour Jules, bonjour Marie, elle lui dit. Merci d'être venu, j'espère que vous n'avez pas trop souffert de mon silence. Il était assez triste, mais j'avais espoir d'une réponse. Vous êtes merveilleusement belle. Merci, marchons s'il vous plaît. Et ils entrent dans le parc, choisissent l'allée de gauche, la plus calme, celle où il n'y a pas de vendeurs, d'animaux à voir ou autre. Elle lui demande. Vous avez réfléchi, vous aussi ? Il lui dit, je reste dans mes positions, je vous aime. Elle lui répond, je vous remercie, cela me touche beaucoup, mais je ne peux pas encore. Je ne sais pas. En réalité, elle est malgré elle amoureuse de son frère et ne rêve pas d'un autre homme. Je lui dis, demandez-moi ce que vous voulez. Elle lui répond, je vous demande simplement un délai. D'ailleurs, mon père va vous mettre à l'épreuve. Il a décidé, c'est de me faire partir un mois ou deux en Bretagne chez une de mes tantes. Je l'ai triste. Mon Dieu, un mois ou deux, c'est trop. Mon père dit que si vous restez sur vos positions, il verra. Et votre frère part avec vous ? Il ne sait pas pourquoi il pose cette question. Elle lui répond, non, mais il fera des visites. Mes parents savent que nous pouvons nous passer l'un l'autre. Il lui demande, et moi, je pourrais aller vous voir ? Surtout pas, père serait furieux. Il veut faire une enquête sérieuse sur vous. Pourrais-je au moins vous écrire ? Oui, bien sûr, père ne l'interdit pas. Moi aussi, je vous écrirai. Vous partez quand ? À la fin de la semaine prochaine. Je vous attendrai. Puis, ils ont continué à marcher. Jules est très triste et voit que Marie ne l'est pas trop. Il lui demande, cela ne vous attriste pas de partir ? Non ? Non ? J'aime la mer et ma tante est très bonne. Je penserai à vous, bien sûr. Elle est arrivée à l'autre bout du parc et lui dit de la raccompagner. Arrivé vers chez elle, il lui demande, je pourrais vous dire au revoir ? Non, il faut lui dire au revoir ici. Il est triste et se dit qu'elle est pressée de lui voir partir. Il lui demande, bon, eh bien, au revoir et faites bon voyage. Elle lui dit, soyez pas triste, nous nous reverrons. Elle l'embrasse sur la joue, elle entre dans son allée. Jules est triste et broie du noir. Marie est partie. Il décide de lui écrire toutes les semaines une longue lettre. Il lui écrit, assis à son bureau, dans sa chambre. Il lui écrit, et plus il écrit, plus il se passionne, plus son amour grandit. Plus il le sublime, il écrit, il n'arrête pas d'écrire, une page sans s'arrêter. Au fur et à mesure qu'il écrit, son amour devient une passion, tellement forte qu'il en oublie l'objet. Ses phrases lyriques l'emportent dans des contrées du corps, tellement lointaines qu'il s'y perd. Il ne sait plus ce qu'il écrit, c'est le plaisir d'écrire l'amour qui le guide. Elle lui répond qu'elle est de plus en plus troublée par ses lettres, des lettres qui la dépassent. Elle ne sera jamais capable d'en faire autant. Que vous devez m'aimer pour m'écrire de telles choses. Elle est humiliée, émerveillée. C'est plus fort pour elle, trop fort. C'est impossible de dire non à une personne qui m'aime comme vous m'aimez. Lui en est fier, s'enflamme, en rajoute. Elle a le vertige. Personne n'est capable de parler d'amour comme vous. Jamais je ne pourrai vous aimer comme vous m'aimez. Les jours passent et la passion les prend. Grâce à l'intermédiaire des lettres, à cause d'elle. Un jour, dans une de ses lettres, elle marque, en plus de son amour, qu'elle est triste, car son frère a fait une grosse bêtise. Il a emprunté de l'argent à père et l'a perdu. Père, pour le punir, l'a fait partir pour l'Amérique du Sud, un pays sauvage où l'on tue facilement, où il y a encore des Indiens indigènes qui croient à la sorcellerie. J'ai très peur, mais je suis inquiète à cause de mon frère. J'écris à mon père en sa faveur, mais il n'a rien voulu entendre. Mon frère part à la fin juillet. Cette nouvelle attriste énormément Jules. Il se dit qu'il ne verra plus le beau garçon. Cela fait plus de mal que s'il n'avait été, ça avait été Marie qui ne le voulait plus. Pendant quelques jours, il n'a plus envie d'écrire à Marie et passe tout son temps à penser au beau garçon. Mais heureusement, elle lui écrit et elle lui envoie son portrait. Il est subjugué par le portrait. Il ne se rend pas compte qu'il est subjugué à cause de la ressemblance avec le frère. Il recommence à lui écrire des lettres folles. Ces lettres d'amour sont tellement folles que n'importe qui se dirait qu'il n'écrit pas des lettres à Marie, mais à l'amour, à son amour à lui. On pourrait penser que c'est des lettres d'un fou furieux. Mais Marie, qui est une jeune fille et ne connaît rien à l'amour, ne le voit pas. Lui non plus ne se rend pas compte du non-sens de ses écrits. Il croit décrire l'amour, mais il décrit la folie. Heureusement que Marie ne montre pas ses lettres à sa famille, il prendrait peur. Le temps passe et les deux amoureux s'écrivent toujours. Elle lui écrit, en plus de sa passion, car elle aussi veut écrire comme lui. Elle ne veut pas rester en reste. Et malgré elle, elle aussi croit en ce qu'elle écrit. Et s'imagine vivre un grand amour. Donc, dans une de ses lettres, elle lui dit avec joie que son père a fait une enquête sur lui et sa famille. Il est satisfait, surtout que Jules est un bon sujet. Il sera professeur d'histoire dans un plus grand lycée lyonnais et qu'en plus il a de l'avenir comme écrivain. Il a lu les livres et les trouve très beaux. Donc, il a fait la conquête du père et la mère suit. Il n'y a plus d'obstacle entre nous. Jules est fou de joie. Enfin, il a réussi. Il va avoir sa Marie. Il va de suite le dire à sa mère et savoir si la famille est d'accord. La mère lui dit,
« Il faudra convaincre ton père. Elle n'est que la fille d'un professeur de lettres. »
Je lui dis, « Comme moi, mère. »
« Oui, mais toi, tu es issu d'une famille qui a des biens. »
Jules est triste. Il se dit qu'il va falloir convaincre son père. Sa mère le voit et lui dit,
« Je parlerai en ta faveur, ou plutôt en la faveur de cette petite. »
« Merci, mère. » Deux semaines plus tard, Marie lui dit, dans une de ses lettres, qu'elle entre à Lyon. Son exil est terminé puisque son père est d'accord. Jules pourra bientôt présenter sa demande officielle à son père. Jules est fou de joie. Mais il appréhende. Lorsqu'il va voir Marie, pour de vrai, ne va-t-il pas causer un choc? Avoir un choc? Moins l'aimer? Sa Marie des lettres, enflammée, était une Marie idéale. Loin. Là, elle sera prête et la verra vraiment. Serait-il capable d'autant lui prouver son amour près d'elle, comme il le faisait loin d'elle? Ne va-t-elle pas désenchanter de le voir moins exalté, moins amoureux? Serait-il capable de lui dire et de lui prouver qu'il est à la hauteur de ses lettres? Elle est de retour. Elle lui dit qu'il peut venir la voir le lendemain. Le premier jour est pour les parents. Le lendemain, très ému, il va sonner chez les parents. C'est la bonne. Bonjour, j'ai rendez-vous avec mademoiselle Marie. Je suis Jules Beaumandin. Entrez, monsieur.
Entrez. Il entre. Là, il attend anxieusement. La porte s'est ouverte. C'est elle.
En robe rose, le sourire aux lèvres, n'est pas déçu, et est tout aussi jolie que dans ses pensées. Elle va vers lui, se met dans ses bras, et il s'embrasse. Que je suis heureux de te revoir, mon amour, moi aussi, ma chérie. Elle lui dit, tes lettres ont été un grand réconfort, et m'ont montré ton amour. J'aimerais aussi. « Es-tu décidé à demander ma main à ton père ?» Il lui dit hésitant, « Plus que jamais, je peux venir le voir demain après-midi, vers 15h. Je préviendrai que je suis heureuse, moi aussi. » Malheureusement, il s'aperçoit qu'il n'a rien à lui dire. C'est plus facile de s'exprimer avec du papier loin de la personne. On peut s'imaginer des tas de choses, mais une fois que l'on est devant elle, c'est pas pareil. Son physique gêne. Il lui dit, j'espère que nos fiançailles ne vont pas durer trop longtemps. Je ne le pense pas. Tant mieux, parce que tu sais qu'à la rentrée, je commence à enseigner. Oui. Je demanderai à mes parents de faire les choses vite. Ils n'ont plus rien à se dire, parce qu'ils se sont tout dit par lettre. Il lui demande, « Ton voyage s'est bien passé ?»« Oui. » Elle lui demande, « Tu veux prendre un thé ?»« Non, malheureusement, il faut que je rentre. J'ai à parler à mon père. » C'est pour nous deux. Il était en voyage, il n'a pas eu le temps de le faire. Il s'embrasse. Il lui dit, « N'oublie pas demain ton père. » Elle lui dit, « Oui. » Et il la quitte.
Une fois
fois dehors, il souffle un peu et sur le chemin qu'il ramène chez ses parents, une fois seul, il peut enfin repenser à elle tranquillement. Arrivé chez ses parents, il va frapper à la porte du bureau de son père.
Entrez. Il est entré.
Son père est assis à son bureau.
Ah, c'est toi. Qu'est-ce que tu veux ?
Je suis venu, c'est vous parler d'une chose importante.
Viens t'asseoir et parle.
Voilà, père. Je suis venu vous dire, c'est que j'aimerais me marier. J'ai rencontré une jeune fille, Marie-Chante Perdrix. Ça fait plusieurs mois que nous nous fréquentons et nous avons... décidé, c'est de nous marier. Elle est issue d'une famille très estimable. Le père est professeur de lettres au lycée du Parc. Constantin regarde bien son fils et lui dit
« Je suis heureux quand mes enfants décident enfin à vivre une vie normale. » « C'est bien, mon fils. Tu as un métier peut-être pas très rémunérateur, mais enfin honnête. Et maintenant, tu veux fonder une famille. Je ne dis pas non. Je connais un peu cette famille Champerdrie. Ce sont des gens bien. Si tu veux te marier, marie-toi. Tu as mes bénédictions.
Merci, père.
Non, c'est moi qui te remercie. Tu me rends heureux en voulant vivre comme tout le monde. Ce n'est pas comme ton frère et ta sœur.
Le lendemain, tout ému, Jules va faire sa demande au père de Marie. Tremblant, il va sonner à la porte des chambres perdries.
J'ai rendez-vous avec Monsieur Champerdrix.
Bien, monsieur, veuillez me suivre.
Et elle le mène au bureau du père.
Entrez. Elle entre. Et ressort.
Monsieur, vous pouvez rentrer.
Il entre.
L'homme est assis à son bureau, Louis XV. Il semble grand, mince, le visage osseux, les cheveux et la moustache blanche.
Vous avez désiré de me voir, monsieur ?
Oui, monsieur.
Asseyez-vous. Je vous écoute.
Voilà, monsieur, je suis venu vous demander la main de votre fille Marie. Un silence de mort pèse dans la pièce.
Puis le père dit « Oui, que ma fille veuille se marier, cela m'arrange. »
Son frère a fait des bêtises. Elle au moins sera causée. Lorsque j'ai appris que vous fréquentiez, j'ai fait une enquête sur vous. Ne vous enfusquez pas. Tous les pères de famille le font. Ce que j'ai appris m'a plutôt été bonne. Vous êtes une personne sérieuse. J'ai lu aussi vos œuvres. Elles m'ont intéressé. C'est bien. Il faudra continuer. Ma femme et moi sommes d'accord pour que vous vous mariez. Je crois que vous désiriez vous marier le plus vite possible à cause de votre travail. Si votre famille est d'accord, nous officialiserons les fiançailles dans la semaine et demanderons à publier les bans dans un mois et demi. Vous direz que je veux à votre père que je veux le voir. Dites-lui de me dire quand il souhaite me recevoir.
Voilà. Je l'ai surpris. S'attendait à plus de complications. Cela s'est fait rapidement et bien. Je vous remercie, monsieur.
Maintenant, parlez-moi de ce que vous êtes en train d'écrire.
Pour le moment, rien.
Oh, oui, bien sûr. Vous avez tellement écrit à ma fille. Et lorsque l'on est amoureux, Bon, eh bien, je vais vous laisser voir ma fille. Vous pouvez lui dire ce que j'ai décidé.
Merci, monsieur. Et le père se lève.
Je l'aussi, et il le suit, et ils sortent du bureau.
Trois jours plus tard, les deux pères se rencontrent dans le bureau des Beaumandins. Monsieur Champerdry offre une petite rente à sa fille et une petite maison de campagne dans le midi. Monsieur Beaumandin offre à son fils la maison qu'il habite car il a décidé d'habiter un petit village entre Lyon et Grenoble.
Je vais me retirer de mes affaires. Mon fils s'en occupera. Et puis, je ferai encore une rente annuelle, mon fils.
Les deux pères sont d'accord pour ce qui est du mariage dans un mois et demi aussi. Surtout qu'il y aura le voyage de noces. C'est M. Beaumandin qui offre un voyage en Grèce aux mariés.
Tout est prêt. La machine est mise en route et Jules n'a plus le temps de réfléchir.
D'abord, le bal, pour présenter les fiancés. La mère s'en est chargée. Un bal luxueux de 300 personnes, que des intimes.
Ému. Après plusieurs jours, il revoit Marie dans une magnifique robe blanche et argent. Et après quelques pas de danse, c'est Pauline qui lui a appris. Et il sait mieux se débrouiller. Puis, après le bal, il y a eu les félicitations pour le mariage. Il a fallu préparer le mariage. Marie n'est plus visible. Elle prépare son trousseau avec sa mère. Jules, parce qu'il ne le voit pas, se remet à idéaliser. Malheureusement, la nuit, il rêve que vient se juxtaposer le visage de son frère sur le sien. Et même quelquefois son corps. Malgré lui, il est toujours attiré par le frère. Saint-André reste à l'écart de tout ça. Il trouve tout ça ridicule. Apolline se demande si Jules ne fait pas une bêtise, car elle sent que son fils, son frère, est attiré par le frère de Marie. Elle se dit que cela finira mal. Comme d'habitude, de toute façon, nous sommes maudits. Jules est pris dans un tourbillon. Il doit faire un tas de choses. Son tailleur, son trousseau, prévenir le lycée, les billets pour le train, le bateau, l'itinéraire, ouvrir un compte en banque, aller chez le notaire pour la donation de la maison, les préparatifs du mariage, invitation, aider sa mère à préparer, etc., etc. Il n'a plus le temps à penser à lui ni à Marie. Enfin,
enfin le jour arrive comme une espèce de délivrance. Le mariage à la mairie a eu lieu la veille sans plus de formalité. Jules a eu comme témoin des amis du père. Comme il n'a pas d'amis, Sylvain est loin. Mariage religieux, enfin. Religieux a lieu. Pour Jules, c'est un immense cortège dont il est un des membres officiels. Des foules, l'orgue, le décor, les fleurs, un prêtre, etc., etc. Il voit à peine la mariée sous son voile bois et sa robe. Tout ça lui donne le vertige. Tout à l'heure, il va falloir sortir de l'église. Jeter des pièces d'or et d'argent. Ensuite, il y a le repas, et après le repas, le bal. S'emmener d'un endroit à l'autre, d'une personne à une autre, il ne comprend pas ce qu'on lui dit. Sa femme, et oui, il a une femme, mais il ne l'aperçoit pas. Il ne peut pas s'y faire, puisqu'on les sépare constamment. Un mariage, c'est épouvantable et c'est con. Ce devrait être simple et sérieux. Pourquoi créer un semblant de joie alors que... Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les délires de la création, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.